chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat. Attaques djihadistes et terroristes de plus en plus fréquentes dans le nord du Burkina Faso, où des catholiques ont été tués cette semaine, de même que dans le sud et le sud-ouest du Niger, région frontalière avec le Nigeria et le Mali. Mardi, au moins 28 soldats nigériens ont été tués dans la région de Tillaberi au Niger. Plus à l'est, les djihadistes nigérians sont actifs dans le nord du Cameroun. Alors hier soir, le Togo, craignant une propagation de la violence islamiste en provenance de pays voisins, a créé un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Alors cette violence risque-t-elle de s'étendre plus encore sur le continent? Que dire sur les mesures et opérations sécuritaires opérées dans la région? Quels sont les meilleurs moyens de lutte contre l'extrémisme selon vous? Alors vous avez donc été assez nombreux à répondre à ces questions, un débat que nous allons donc continuer ce soir. Donc on rappelle que le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, attribuées notamment à des groupes djihadistes comme Ansarou Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'organisation État islamique au Grand Sahara. Alors d'abord concentrée dans le nord, ces attaques ont ensuite visé la capitale Ouagadougou et d'autres régions, notamment l'Est, entre autres, et fait près de 400 morts depuis 2015. Donc ça, c'est pour le cas du Burkina Faso. On va évoquer également les autres cas dans la région en particulier. On a notamment un commentaire de Félix Lonawali qui est au Burkina Faso. C'est un Nigérien qui est au Burkina Faso. On essaie de le joindre parce qu'il a écrit sur notre Facebook qu'il avait un cri du cœur à lancer. On a Mouamadou Maïga qui lui pense que c'est trop complexe pour l'Afrique, a-t-il dit sur notre Facebook. Seul le Maroc et l'Algérie luttent efficacement contre le terrorisme, pense-t-il. Et on a Benjamin qui est au Burkina Faso et que nous essayons également de joindre. Alors il dit, l'Occident se voit obligé de doter les pays concernés d'armements de dernière génération pour pouvoir faire face à l'arsenal des terroristes. Les armes des pays africains datent de la Deuxième Guerre mondiale, dit-il. On se rend compte de la faiblesse des armées africaines face à cette vague d'islamistes qui s'impose en Afrique. C'est Benjamin qu'on essaie de joindre et on a David qui est en Guinée. Il dit, je crois qu'on ne peut pas résoudre un problème ou par la violence. Supprimer le G5 Sahel serait l'une des solutions, pense-t-il, et venir négocier avec les acteurs. Le mal, c'est entre nous-mêmes, dit-il. Donc ça, c'est David, et j'ai parlé avant David de Benjamin qui est au Burkina Faso et que nous avons justement en ligne. Benjamin, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir madame.
Parlez assez fort, on vous écoute.
Ok, bon, à ce qui concerne les premiers africains, nous nous sommes rendus compte que vraiment on est sous-occupé en armement. Donc si les djihadistes font face avec ça, on est obligé de prendre la main à l'Occident pour demander à ce qu'ils aident avec les armes de la nouvelle génération. Parce que vous savez, nous avons, dans le temps, nous pensions que nos armées étaient bien équipées. Mais maintenant, on s'est rendu compte que, qu'on appelle là, ils sont très faibles face à cela. D'autant plus que c'est une petite difficile, qu'on appelle des bandits qui n'ont pas quand même une bonne formation, mais qui ont des armes vraiment, je ne sais pas comment dire. Bon, à chaque fois, on apprend des nouvelles là, vraiment très difficiles de la part de notre armée. Et puis, bon, ce qu'on appelle là, venant du Mali, et du Niger, tout dernièrement, bon, même du Burkina.
Oui.
Ce qui est là, moi je pense que ce qu'on appelle l'Occident quand même doit prendre la main pour que tout ça soit à peu près.
Merci beaucoup Benjamin qui pense donc que les armées africaines sont sous-équipées en armement. On a la réflexion de Yacouba Sangaré qui a dit sur notre Facebook « Les bases militaires étrangères du Sahel devraient se retirer, elles ne jouent pas franc jeu selon lui ». Et Éloge qui est en RDC, qu'on essaie de joindre, il pense que ces attaques risquent de s'étendre facilement sur le continent. La meilleure façon de lutter contre est que la politique reste aux politiques, dit-il. Éloge qui est à Lubumbashi. On a également la réflexion de Félix Lona Wali qui est au Burkina Faso. Alors il pense qu'il faut régler le problème par le chaos libyen, d'où nous vient cet enfer, dit-il, car les armes viennent de là-bas. Aussi, il faut que nos armées fassent des opérations ensemble, sinon comment comprendre que à chaque fois, des terroristes viennent attaquer au Niger ou au Burkina Faso et repartent au Mali. Il y a une question de complicité, pense-t-il. C'est la réflexion de Félix. Je ne sais pas si on a un autre auditeur en ligne. Allô, allô ? On a David en ligne.
Allô, oui, bonsoir, madame.
David, à vous la parole. Donc, vous êtes en Guinée. On vous écoute.
Ok. Je disais bien sûr dans mes commentaires que vraiment, on ne peut pas résoudre des problèmes par des problèmes. Parce que toujours, il y a toujours le phénomène terrorisme dans ces différents pays, et que les chefs d'État ou bien les autres prennent, n'est-ce pas, les dispositions pour se battre contre ces terroristes-là, c'est inadmissible. Donc, il est nécessaire que les protagonistes se réunissent, ils s'asseyent sur une table pour pouvoir, n'est-ce pas, discuter pour revenir sur une terre paisible. Donc, pour pallier à cela, il faut d'abord supprimer le G5 Sahel, comme je l'ai dit. Parce que c'est un phénomène aussi qui lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme, quand ils entendent qu'on lutte contre nous par-ci, par-là, c'est comme ça qu'ils continuent à faire des choses et ils continuent à percer. Terrorisme, djihadisme ou bien État islamique, les islamistes, c'est la même chose. Mais ici, je disais aussi qu'on ne peut pas se battre, comment dirais-je, on ne peut pas chasser un voleur avec qui nous passons la nuit. Le phénomène, c'est entre nous-mêmes, entre nous. Les chefs d'État ont l'air par des gants. Bien sûr, l'Occident fournit les armements et autres là, mais le phénomène, c'est entre nous. Donc, il faut d'abord appeler les frères et sœurs à la table pour pouvoir, n'est-ce pas, discuter de ces choses-là. Donc, vraiment, c'est cet appel-là que j'ai lancé à tous les pays qui sont beaucoup plus affrontés à ces phénomènes de terrorisme et djihadisme comme un État islamique là. Je vous remercie.
Merci beaucoup David pour votre réflexion. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso, on va évoquer le cas du Niger maintenant, où d'ailleurs au moins 28 soldats ont été tués mardi près de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Alors une colonne militaire a été prise à partie par des terroristes lourdement armés dans une attaque complexe à base d'engins explosifs improvisés. C'est le ministère de la Défense qui le dit, ajoutant qu'il y a également 6 blessés et 11 portés disparu. Et alors l'AFP cite une source sécuritaire disant avoir confirmation que les corps sans vie de 11 soldats portés disparus ont été retrouvés, ce qui porterait le bilan à 28 morts. Et on sait que des renforts ont été déployés pour poursuivre les assaillants qui se sont exfiltrés vers le nord. Et l'armée nigérienne s'est déployée massivement fin 2018 dans la région de Tillabéri pour chasser les combattants islamistes venu du Mali et du Burkina Faso. On a un autre auditeur en ligne. On a Vincent. Vincent Seounou. Vincent Seounou qui est au Bénin et qui est pour la dissolution du G5 Sahel et le retrait de la force Barkhane et pour la négociation. Vincent, on vous écoute. À vous la parole.
Oui, bonsoir, cher journaliste.
Bonsoir.
Vous avez, depuis l'avènement de la force Barkhane amenée par les Français aussi sur la gestion Sahel, ça continue toujours de persister jusqu'à présent. À un moment donné, on ne sait comment organiser. Mais moi, je trouve que former ces organisations-là, c'est juste pour gaspiller beaucoup de temps. Il a fallu une négociation pour retrouver à l'origine des problèmes pour pouvoir négocier. Et avec les belligérants aussi, l'État des membres des gestion Sahel. Vous voyez, l'Afrique ne dispose pas des armes. Pourtant, chaque année, chaque minute, c'est l'Afrique qui est à la base de toutes ces choses-là. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal qu'aujourd'hui, on continue de dire que le petit Niger, le petit Burkina Faso, aujourd'hui, est devenu un grand pays attiré pour dans le monde entier. Mais c'est grave, l'Afrique ne fabrique pas des armes. Il faut que les armes, là où on fabrique les armes, ces armes-là se travaillent là-bas et aussi laissez-nous en paix. C'est tout comme si c'est un système du marché de marchandises, de vente d'armes. Vous voyez, si aujourd'hui la Russie ne fabrique des armes, ils ne savent pas comment utiliser, c'est pas en Afrique qu'ils viennent nous créer des problèmes. C'est
pour vous. Alors merci, merci beaucoup. Un grand merci Vincent pour votre point de vue. J'ai parlé tout à l'heure donc du Niger, du Burkina Faso, et il se trouve que le gouvernement togolais a créé un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pour répondre à des menaces terroristes et attentats qui secouent certains pays limitrophes. Alors la nouvelle structure a pour mission principale d'œuvrer à éradiquer la propagation de l'extrémisme violent en donnant aux communautés de base les outils et les soutiens dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau. Et par ailleurs, le gouvernement togolais a adopté un projet de loi afin d'avoir les instruments nécessaires pour faire face aux menaces tout en assurant un équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité publique. Et le 26 avril, d'ailleurs, le président Faure Gnassingbé avait annoncé le démantèlement de cellules terroristes. Et des services de renseignement européens avaient confirmé l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo. Tout ça pour dire effectivement que d'autres pays, des pays limitrophes, commencent à s'inquiéter. On a un auditeur en ligne, on a Marie-Jeanne Abega qui est au Cameroun. Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir, Théo. Ah.
On vous écoute.
Oui, moi je pense que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est beaucoup plus les règlements de compte et les manières de ceux qui veulent imposer leur idéologie aux autres. Ceux qui mettent en mal le vivre ensemble. Et il y a des mesures qu'on pourrait adopter pour pallier à tout ça. Par exemple, le gouvernement peut, n'est-ce pas, privilégier les causeries éducatives afin de promouvoir le vivre ensemble. Mmh. Et ces causeries éducatives devraient se passer par la communication égalitaire en plusieurs langues pour atteindre beaucoup plus de cibles. Donc, il y a ceux qui profitent de la situation. Lorsqu'il y a ces violences, il y a des gens qui tirent les ficelles, il y a des gens qui règlent des comptes aux autres, il y en a qui vendent des armes, il y en a qui font des trafics de tout genre en profitant de ces violences. Donc, on ne peut pas savoir qui est exactement l'ennemi parce que c'est une guerre asymétrique. On n'a pas un ennemi en face de nous et cela devient un peu compliqué. Donc, si le gouvernement, de son côté, adopte aussi les mesures violentes, il n'atteindra pas son objectif, d'où la douceur et la main tendue à travers le dialogue, à travers les enseignements en faveur du vivre ensemble, en faveur les messages de paix aux populations. Il pourrait même utiliser des panneaux, il pourrait utiliser beaucoup de formes de communication, les affiches par exemple, mêler tout le monde à ça. Donc, c'est à eux de voir quelle est la méthode qui fait à leur pays. Si la population, la majorité de la population est par exemple analphabète, c'est pour cela que j'ai parlé de la communication égalitaire en plusieurs langues. On devrait tout faire pour que ceux qui sont enrôlés dans ces milieux violents comprennent que ces milieux n'ont pas d'avenir et qu'il serait mieux de regagner les rangs du gouvernement qui milite pour leur bien-être. c'est un peu ça ma petite contribution de ce soir.
Merci beaucoup Marie-Jeanne pour cette contribution. Marie-Jeanne qui pense qu'il faut intensifier les causeries éducatives sur la paix et le vivre ensemble. Et cela tombe bien parce que justement aujourd'hui c'est la journée internationale du vivre ensemble. Donc on reçoit bien le message de Marie-Jeanne Abega. Avant de prendre Abdoulaye, je voudrais citer Jean Sokola qui est en RDC. Il a écrit sur notre Facebook: la meilleure façon de lutter contre le phénomène djihadiste, c'est la bonne gouvernance, la répartition équitable des richesses, l'instauration d'un état de droit et la démocratie. Jean Sokola qui est à Kinshasa. J'en profite pour citer dans la foulée Abdoul Wahab. Il a écrit sur notre Facebook: la lâcheté de certains dirigeants a conduit à la destruction de la Libye et on paie les pots cassés, dit-il. Au lieu de rattraper le coup, on est envahi de bases militaires qui ne servent à rien, pense-t-il. Je suis nigérien, je connais notre armée. Et Fidel Kambiré, lui, il répond aux questions par des questions. Il dit: pourquoi des pays pauvres où la majorité de la population a moins d'un dollar par jour est obligée de subir cela? À qui profite le crime? C'est une question de Fidel Kambiré. On a Abdoulaye qui est à Port-Boué en Côte d'Ivoire. Abdoulaye, bonsoir, à vous la parole. On vous écoute, Abdoulaye.
Oh, nous pensons que le terrorisme n'a pas de projet de société pour nos populations, en tout cas en Afrique ici. Nous en avons pour preuve l'État islamique. Lorsque les parties occupées par l'État islamique ont été libérées, on a vu que la population était dans le dénuement total. On a vu même à Casamance avec cette rébellion. Et en Ouganda, nous avons vu Joseph Kony, ce terroriste qui terrorisait une partie du nord de l'Ouganda. Et donc, finalement, le djihadisme et les extrémistes n'ont pas de projet de société. Donc, ils ont pour base d'asseoir leur pouvoir et d'exploiter les territoires qu'ils occupent en se livrant à toute forme de trafic. Donc, il est important que nos gouvernements renforcent, comment on appelle, la cohésion sociale et les programmes éducatifs, notamment à l'égard des populations. Et il va aussi sans dire que le volet sécuritaire est très capital, parce que depuis la destruction de la Libye, on voit que les armes circulent à grand renfort, et donc il va falloir mettre beaucoup d'accent sur le domaine sécuritaire, notamment au niveau des renseignements. Et c'est très important, parce que très souvent les populations savent qu'il y a des terroristes parmi elles qui vivent, qui cohabitent avec elles et ils ne les dénoncent pas. Donc il y a une certaine complicité. Donc, il faut véritablement impliquer la population locale et notamment les autorités coutumières pour juguler ce fléau-là qui est en train complètement de déstructurer l'Afrique de l'Ouest.
Un grand merci Abdoulaye pour votre commentaire, votre point de vue, vos conseils. Avant de prendre un autre auditeur, je poursuis une petite lecture de vos commentaires. Jonas qui est au Bénin, il dit: l'instabilité politique des pays africains profite aux violences terroristes et elle risque de s'étendre sur le continent si les dirigeants africains ne sont pas à l'écoute des populations. Alidor Mukendi en RDC, il pose une question: l'Afrique sans la paix et l'ONU, où es-tu ? Haruna Baldé a écrit sur notre Facebook: la lutte contre le terrorisme ne doit pas se limiter seulement dans les pays concernés. Il faut une jointure des forces de défense et de sécurité en matière de renseignement dans toute l'Afrique. Donc il rejoint le commentaire que nous avons eu tout juste au téléphone Abdoulaye. Et il dit: impliquer fortement les populations, renforcer les moyens logistiques et financer et créer une cellule africaine de lutte contre le terrorisme. On a justement Haruna Baldé en ligne. Haruna, au Sénégal, à vous la parole. Bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Bat, bonsoir à tous les auditeurs de la Zéro Afrique.
On vous écoute.
Bon, voilà, justement, moi je disais que cette question du terrorisme ne concerne pas seulement que les pays vraiment touchés. Aujourd'hui, le risque est partout. Puisque le risque est partout, il faut vraiment qu'il y ait une force commune, que toute l'Afrique entière vraiment doit vraiment se réunir et créer une cellule qui mettra en place, qui permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Burkina, demain c'est le Niger, le lendemain c'est le Mali. Aucun pays n'est épargné. Justement, le Togo, le gouvernement togolais a pris des mesures nécessaires pour pallier à ce phénomène-là. Je crois qu'aucun pays aujourd'hui n'est épargné, c'est-à-dire c'est, donc pour vraiment éviter ce phénomène, pour stopper cette propagation de la, du terrorisme, il faut qu'il y ait des mesures nécessaires, palliatives nécessaires aujourd'hui. Il faut que l'Afrique se soude, l'Afrique, tout le monde se réunisse autour d'une table pour réfléchir par rapport à cette situation-là. Sinon, vraiment, la menace, elle continuera d'élargir en fait, sur le terrain.
Merci Aruna, bonne soirée. Ali Foulati, qui est un N'Djamena, a écrit sur notre Facebook: la mesure de sécurité que nous devons prendre est la résolution du problème libyen. Jean-Claude Tiendré Beogo, lui, il est au Burkina Faso et il pense qu'il va falloir que cette lutte soit sincère, dit-il. Nous l'avons justement en ligne. Jean-Claude, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir madame.
Bonsoir, à vous la parole.
Oui, moi je disais bien sûr qu'il fallait que ce soit une lutte sincère, dans la mesure où, je prends un exemple, les otages français qu'ils ont eu à libérer, vraiment, ça n'a pas pris tout le temps, quand ils ont pu qu'ils ont été capturés par les terroristes, ça n'a pas pris du temps, le premier et puis au 10, ils ont été déjà libérés. Donc moi je sais que vraiment, surtout la France, a une idée de là où se trouve vraiment la base de ce terrorisme-là. Et il faudrait que les présidents africains se donnent main dans la main pour faire vraiment une frontière commune par rapport à ce phénomène. Sinon, vraiment, c'est chaque jour avec beaucoup de deux dans les trois pays que vous avez cités vraiment. Et si le Togo a pris la mesure vraiment d'initier cette belle initiative là, vraiment, je pense que si vraiment c'est sincère et que les autres pays se collaborent avec les Togo, vraiment on pourra trouver une belle issue de ce terrorisme. Et vraiment il faudra trouver les voies et moyens pour savoir d'où proviennent ces armes. Et je pense que par rapport aux douilles des balles que les terroristes utilisent, on pourra avoir la source de la provenance de ces armes sophistiquées que ces gars-là utilisent. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui sont dans la forêt, dans le désert, et puis ils sont bien armés, ils se nourrissent comment, et puis leur argent comment, les déplacements avec le carburant, tout ça, c'est qu'il y a une source, ils ont une très très grande source qui s'approvisionne pour pouvoir déstabiliser les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest.
Un grand merci Jean-Claude pour votre contribution. On a Vasily Bamba qui est en Côte d'Ivoire. Il pense qu'il faut résoudre le problème de la Libye. C'est là-bas qu'ils prennent les armes, pense-t-il. Donc, il est à Abidjan. Aruna Baldé, qui pense que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se limiter seulement dans les pays concernés. Je vous l'ai déjà lu tout à l'heure, donc je ne vais pas le relire, pardonnez-moi. On a Junior qu'on essaie de joindre. Ernest Cafando. Nous avons Junior en ligne. Bonsoir Junior, on vous écoute.
Et bonsoir madame.
À vous la parole.
Moi je pense que pour lutter contre le terrorisme dans notre continent africain, il fallait très durement que tous les dirigeants africains puissent signer, parce que ce ne sont pas seulement les pays qui sont menacés aujourd'hui qui resteront toujours menacés. Alors il y aura toujours cette propagation, mais il y a d'autres pays, parce que dernièrement on a vu des attaques réclamées par l'État islamique dans notre pays en RDC. Et alors, nous n'étions pas menacés de rien avoir. Alors, il fallait que l'unité de tous les dirigeants africains puissent s'unir et trouver des solutions comment lutter contre le terrorisme. Parce qu'ils sont des sous peut-être qu'on ne trouve pas dans notre pays, dans notre continent. Ils sont définis derrière pour trouver seulement les continents africains comme on les a toujours considérés comme des esclaves. Alors, il fallait finir pour lutter contre ce fléau.
Un grand merci pour votre contribution. Ernest Cafando sur notre Facebook pense que la question capitale est: qui sont ceux qui sont derrière ces djihadistes et pourquoi? Ernest, qui est au Burkina Faso, à Tita exactement, et Thierry pense qu'il faut surtout lutter contre le chômage des jeunes. Ceci permettrait aussi de vaincre le radicalisme source de ces attaques. Il est à Bujumbura. Un grand merci à toutes et à tous, chers auditeurs, chers chères auditrices. Un grand merci à la production, à Dan Crafton, Joselle Morissin, Firmin Max Koyaweda. Très bonne soirée à tous à l'écoute de nos programmes sur la Voix de l'Amérique, VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.